RCF.
La religion a-t-elle un avenir ? Les religions font parler d'elles, mais pas toujours en très bons termes. De nombreuses critiques sont formulées dénonçant les violences extrêmes et les différentes formes d'emprise. La religion est-elle une démarche essentielle à l'humanité ou bien est-elle vouée à disparaître ? On invalide les religions au nom de leurs dérives, tout en s'étonnant de ce qu'elles continuent d'exister. On évoque la perte de leur impact social, on leur retire toute légitimité à dire la vérité. Ce déni n'est-il pas symptomatique ? Comment expliquer enfin la permanence de clichés anti-religieux et que répondre à ces critiques ? Ces questions, nous les avons abordées dans une première émission avec Paul Valadier, jésuite et philosophe. Aujourd'hui, nous poursuivons notre réflexion avec notre invité, Yann Boissière, auteur d'un ouvrage dont le titre est « Courage, croyons », sous-titre « Pour en finir avec les clichés religieux ». Paru aux éditions Desclés de Brouwer.
Les clichés anti-religieux.
Les clichés anti-religieux, bien sûr. Rabban Yann Boissière, bonjour.
Bonjour.
C'est une joie de vous accueillir aujourd'hui. Vous appartenez au mouvement juif libéral de France. Vous êtes le fondateur et le président de l'association Les Voix de la Paix. Vous êtes également secrétaire général de l'Institut des hautes études du monde religieux. Courage, croyons. On pourrait être tenté de renoncer, de se faire tout petit. Il faut alors du courage pour s'affirmer comme croyant dans une religion, pour être un croyant, un paroissien ou un membre d'une communauté. Être juif ou chrétien en France aujourd'hui, pourquoi ce livre ?
Oui, alors de nombreuses raisons. D'abord, je suis très très heureux d'être avec vous ici. Je salue tous les auditeurs. Il y a de... Ce qui m'a donné envie, en fait, de d'écrire ce livre, c'est la persistance, précisément, des clichés anti-religieux. Il n'est pas une semaine sans que dans un magazine, alors soit scientifique, on revigore un vieux débat foi et raison, sous-entendu la foi serait incompatible avec la raison, ou alors que les sciences sociales ne se piquent d'expliquer ce que font réellement les religieux. Bref, un tas de clichés qui ont été recyclés constamment dans l'histoire et qui nous sont resservis avec une sorte de juvénile enthousiasme, comme si finalement les grands penseurs n'avaient pas existé. Enfin, quand même, dans ce grand dialogue entre Athènes et Jérusalem. Si on replace les choses dans le grand problème théologico-politique qui est l'un des logiciels fondamentaux, je pense, de l'Occident, il se trouve qu'il y a quand même quelques œuvres qui ont fait progresser, je pense, la pensée. Et c'est comme si tout ça n'avait jamais existé. Et puis on vit dans une société, particulièrement en France, où effectivement les religions n'ont pas bonne presse. Alors les religions sont pensées comme légitimes pour les croyants, le culte, tout ça, ça va. Mais on n'imagine pas un instant que les religions pourraient constituer des ressources pour la pensée, et de fait elles sont le plus souvent exclues des débats publics, quand bien même ces débats concernent les orientations ultimes de l'homme dans la société, dans le monde, etc. Et ça a une histoire très précise que je rappelle. C'est un peu l'histoire de la modernité qui s'est inscrite en rupture contre les religions. Mais le plus étonnant, c'est que tout cela persiste en l'état, comme s'il y avait jamais rien qui puisse avancer dans le domaine.
Alors vous expliquez très bien que la religion doit faire face à une incompréhension. L'essentiel, finalement, tient en un mot. Pour se débarrasser du religieux, on a voulu expliquer la religion. Et il y a des biais, alors des structures argumentatives ou des matrices de clichés, on pourrait dire, que vous repérez trois directions essentielles.
Oui, c'est un travail que j'ai souhaité mener. Alors, dans le grand débat, alors la religion a toujours été face à des grands paradigmes qui sont nés dans l'histoire humaine, dans l'histoire culturelle humaine. Il y a eu celui de la science, il y a eu celui des sciences sociales plus précisément, il y a eu la philosophie. Donc, il y a toujours eu des grandes zones de frottement entre ces grands paradigmes généraux explicatifs et la religion. Et donc, ici, j'isole trois thèmes qui sont, eux, connus. Le thème de la liberté, puisque ça a été l'une des grandes grande revendication de la modernité de dire que les religions étaient contre la liberté, qu'elles écrasaient la liberté humaine. Il y a bien sûr le grand dialogue foi et raison, auquel on peut pas ne pas s'intéresser parce que c'est un dialogue qui continue. Et puis aussi la relation du religieux avec le politique. Mais ça, je dirais, ce sont des débats classiques, connus, argumentés. Ce qui m'a semblé intéressant de faire, c'est de débusquer effectivement des biais qui sont des structures pas nécessairement conscientes, mais qui fait que quand des penseurs extra-religieux, en tout cas, s'adressent à la religion, c'est toujours d'une certaine manière dont ils sont pas encore une fois nécessairement conscients. Et cette manière de s'adresser aux religions consiste à déporter en quelque sorte les religions de leur zone de vérité et en tout cas de les rendre incapables de participer au débat public. Alors j'en ai isolé trois. Un qui est d'ordre logique, un autre qui est d'ordre psychologique et un autre d'ordre peut-être plus social. Un biais logique qui assimile en fait la croyance à un savoir. Et donc du coup un savoir faible, une forme de savoir faible, à savoir que croire en Dieu ce serait affirmer par la présence de Dieu, et alors du coup bah, démontrez-le, et donc là la religion est piégée dans une espèce de prisme scientifique qui n'est pas le sien. Le deuxième biais, c'est un biais beaucoup initié par la science quand elle a pris son essor au XVIIe siècle, à savoir que quelque part la grande fonction des religions aurait toujours été de vouloir expliquer le monde, et que la supercherie aurait tenu un certain nombre de siècles jusqu'à ce que, évidemment, la science au sens moderne arrive et découvre cette supercherie. Donc maintenant que la science explique le monde correctement, la religion est priée, parce qu'elle aurait voulu toujours le faire, est priée de s'éclipser. Et puis un troisième biais qui est à la fois nouveau, enfin revigoré au XIXe siècle avec les sciences sociales, mais qui en réalité est très très ancien et constitue presque la première matrice antireligieuse, celle de l'épicurisme, à savoir que les religions fondamentalement répondent à un besoin psychologique, la peur. L'homme serait constitué essentiellement par la peur de tout ce qu'il ne comprend pas, les phénomènes, et du coup, il met un dieu ou des dieux comme bouche-trou explicatif à sa peur. Et ces trois choses, le biais logique de penser que la croyance est une affirmation d'existence de Dieu, et donc une forme de savoir, et sous-entendu une forme de savoir faible, que la religion chercherait à expliquer le monde, mais qu'elle est détrônée maintenant par la science, et que la religion essentiellement est une réponse psychologique, certes nécessaires, mais pas très sérieuses sur le fond, souvent ne sont pas nécessairement formulées comme ça. C'est la manière naturelle dont on s'adresse aux religions que de penser avec ces sortes de structures mentales. Et de fait, ça contribue à les exclure totalement de toute parole pertinente.
Alors cette perspective que vous analysez très bien est finalement très réductionniste, très appauvrissante. On retient quelque chose comme une utilité sociale, finalement, un petit peu l'utilité d'une illusion, finalement, religieuse. Et une fonction qu'on pourrait tout à fait remplacer. Et ce qui est aussi intéressant que vous pointez, c'est finalement qu'on ne met l'accent que sur ce qui ne fonctionne pas, sur les dysfonctionnements, en particulier au niveau des institutions ou des violences ou des phénomènes d'emprise aussi exercés par certains courants religieux qui n'épuisent pas le sens du mot religion.
Bien sûr, tout à fait. Vous avez fait ressortir un des points importants du livre, qui est à mon avis une véritable maladie moderne, c'est la maladie de la fonction. On ne peut, enfin, l'esprit moderne, voire post-moderne, ne peut plus envisager une chose dans son sens simple ou dans ce qu'elle cherche à effectuer, mais à analyser toujours de la fonction. Il y a toujours ce doute que quand quelque chose existe ou quand quelqu'un dit quelque chose, alors il peut s'agir d'un religieux, d'un homme politique ou de toute personne qui défend en tout cas avec passion une idée, en fait il roule pour quelqu'un d'autre, il joue la fonction de quelqu'un d'autre. De quoi est-il le nom ? Il s'agit de décrypter la fonction réelle. Autrement dit, jamais les acteurs ne font réellement ce qu'ils pensent vouloir faire, mais ils font toujours autre chose que ce qu'ils croient vouloir faire. La religion a été en particulier enfermés dans ce genre de modèle. Les religieux défendent de grandes idées métaphysiques sur Dieu, sur le monde, sur la finalité humaine, mais en réalité font tout autre chose que ce qu'ils prétendent faire. Ce sont des systèmes coercitifs. Et puis cette idée aussi chère au XIXe siècle, dans une certaine pensée marxiste, on pourrait dire que tout savoir cache un pouvoir, en tout cas une volonté de pouvoir. Et effectivement, vous soulignez que donc c'est déjà extrêmement réducteur sur le plan philosophique, mais c'est pain béni en quelque sorte pour ceux qui, persistant dans cette réduction, ne vont s'intéresser aux religieux que sous les aspects institutionnels, où malheureusement il y a aussi des choses à dire sur la manière dont les religions fonctionnent, mais on les a de toute façon préalablement tellement énucléées de leur contenu et des choses intéressantes qu'elles peuvent dire sur le monde, qu'effectivement là on est dans une double réduction, la réduction métaphysique à l'utilité et la réduction institutionnelle.
Yann Boissière, sortons de ces perspectives réductrices et cherchons ensemble des solutions proposées par votre ouvrage. Alors, on accuse la religion de se déployer dans un irrationnel, mais vous insistez sur la matrice de pensée que constitue la religion, sa tradition, sa culture d'interprétation aussi des textes. Il y a toute une culture de la discussion dans les grandes traditions religieuses où la philosophie, la théologie, l'art ont toute leur place.
Bien sûr. Alors, je vais parler plus particulièrement de la tradition juive que je connais le mieux et que je pratique, mais tout ce que je vais dire est éminemment similaire, je le sais, dans le christianisme, que ce soit le catholicisme, le mouvement protestant ou même l'islam aussi, bien sûr. Je pense d'ailleurs que c'est un des grands génies de la religion, et peut-être ce qu'elle a de plus précieux à apporter aujourd'hui, c'est-à-dire un savoir concernant les textes. Les religions n'ont jamais voulu se séparer de l'activité qui consiste à lire des textes. Alors certes, des textes fixes, où la mentalité moderne voit une espèce de régression, mais c'est précisément ça, se coltiner à un texte, lui donner une actualité nouvelle, un sens nouveau, une vigueur nouvelle, une fraîcheur, alors même que ce texte est fixe, c'est ça le grand défi, avec cette très très belle idée qui a animé les religions, qui continue de les animer, mais qui a été un petit peu abandonnée de nos jours, à savoir que l'interprétation du texte est un vecteur de développement humain. Se mettre autour d'un texte, se coltiner un texte, voir ce qu'il peut vouloir dire, le texte appartient à son lecteur. Les religions le savent depuis longtemps. Bien sûr, il est issu d'une volonté que le croyant reconnaît, une volonté divine médiatisée par les hommes, etc. Mais le texte appartient aussi à son lecteur. Les religions le savaient bien avant l'herméneutique moderne. Et puis, le deuxième aspect de cette lecture des textes, c'est jamais une lecture seule, c'est une lecture plurielle. Alors, le judaïsme a particulièrement développé ce dispositif, mais on étudie toujours en couple, ce qu'on appelle avec un chaver, un compagnon d'étude, et a fortiori avec plusieurs personnes autour de la table, pour donner toutes ces résonances plurielles, parce que justement la parole de Dieu ne peut pas être enfermée dans une statue interprétative qui deviendrait le sens avec un grand L majuscule, mais justement pour restituer cette dynamique divine, il faut les étincelles de plusieurs interprétations. Donc ce génie, je dirais, d'interprétatif et cette promotion de la pluralité est quelque chose d'éminemment moderne, je dirais même presque révolutionnaire, toujours révolutionnaire à notre époque. Les religions ont bien d'autres vertus, mais je pense qu'un des grands points modernes qui les rend très très actuels, c'est cette capacité, cet enthousiasme à discuter à partir des textes et d'en restituer une interprétation plurielle.
Alors vous mettez très bien en lumière cette dimension de l'interprétation, cette richesse infinie des textes. Mais il y a aussi un renversement, une situation qui a changé aussi, je dirais, dans notre rapport très moderne aussi au texte, c'est-à-dire que on considère, je schématise peut-être un peu, mais globalement aujourd'hui que finalement la vérité, comme vous le rappelez d'ailleurs vous-même dans votre livre, la vérité est fille de son temps, que finalement il n'y a pas de vérité. Or, lire un texte religieux, c'est bien avoir cette exigence de la vérité. Alors,
Absolument.
Comment résoudre cette difficulté ?
Oui, c'est vrai. Ouais. C'est vrai que là, ça c'est, je dirais, une fausse idée profonde de la modernité. Bon, la modernité a placé la liberté de l'homme au centre, ce qui est une très bonne chose, enfin ce qui peut avoir de très bons aspects, bien sûr, il ne s'agit pas de le nier. Mais du coup, évidemment, ça a promu une notion de la vérité qui constamment s'adapte. Disons que l'idée moderne, c'est que face à un texte qui ne nous plairait pas, par exemple, avec lequel on ne se sent plus en adéquation, eh bien, on change le texte, on change le signifiant pour changer le signifié.
Et d'un autre côté, on ramène, je dirais, la lecture religieuse à une affaire de croyance.
C'est ça, on aura ramène la vérité religieuse à une affaire de croyance, à une affaire de convenance. Ce que je crois juste là maintenant, c'est j'ai envie de me donner le petit texte qui va bien avec ce que je crois. Or, le croyant, et c'est en ça que c'est une véritable démarche de vérité, presque scientifique, j'ai envie de dire, que de la même façon que le scientifique est face au monde, il ne le comprend pas, mais le phénomène, il est là. Il s'agit d'interpréter le phénomène et pas autre chose que le phénomène, pas ce qu'il aimerait voir du phénomène. Il y a ce type de vérité, d'effort vers la vérité dans la religion. Il y a beaucoup plus de force à maintenir la fixité du signifiant et à s'obliger, du coup, à trouver un signifié nouveau. Je prends une image qui donnera ça. La liberté fait en quelque sorte, c'est comme si on avait un GPS qui nous donnait constamment la position, qui nous disait oui, vous êtes bien là où vous êtes. Vous êtes bien vous-même, vous êtes bien... Alors, je fais trois pas à côté et le GPS nous dit oui, vous êtes toujours bien là où vous êtes. Mais un GPS qui ne fait que s'adapter à sa propre volonté et à sa position est un GPS totalement inutile. Il s'agit de parcourir un territoire inconnu, celui de la foi, celui de la croyance, celui infini du sens.
Vous voulez dire aussi que cette vérité, elle nous dépasse et elle nous précède, finalement?
Elle nous précède, elle est de toute façon bien plus riche. Enfin, j'espère qu'on pense tout ça, qu'elle est bien plus riche que ce qu'on peut en penser. Mais du coup, il s'agit de la parcourir et ça provoque une exigence qui du coup me construit. Il y avait cette très belle phrase de Paul, je crois, qui disait « Tout m'est permis, mais tout ne me construit pas ». Tout m'est permis, je peux aller n'importe où. Après, est-ce que aller n'importe où, c'est quelque chose qui est intéressant, c'est quelque chose qui produit du sens? Non, une fois qu'on a expérimenté le fait qu'effectivement je peux faire 2 mètres à droite, 2 mètres à gauche, etc., que j'ai cette liberté, ça tourne un peu court. Il s'agit d'essayer de comprendre où je suis, de quoi ce monde est fait, les relations humaines, etc. Et là, c'est une autre démarche. Là aussi, c'est une intuition profonde que les textes, ces vieux textes qui effectivement ne sont pas rédigés dans notre langage moderne ou postmoderne, ces vieux textes nous disent quelque chose d'éternel qu'il faut aller chercher, il faut aller le débusquer. C'est un chemin, c'est une démarche. Et pour le coup, effectivement, aller chercher une vérité qui est déjà là, enfin, qui est déjà là, pas de manière fixe. Bien sûr qu'elle va produire un résultat actuel, actualisé pour nous. Il s'agit de faire de la religion quelque chose de pertinent pour chaque génération. Et cette notion de pertinence évolue. Mais par contre, elle a cette valeur de délivrer un sens que parce qu'elle est puisée dans une vérité profonde, infinie, qui nous précède. Parce que sinon, nous ne ferions que nous inventer de manière permanente sans jamais savoir qui nous sommes.
Alors, vous évoquez cette question de la liberté dans la lecture, dans l'exercice même de l'interprétation ou de la recherche du sens. On a pu dire aussi que la religion n'est qu'un dispositif de contrainte, qu'elle est au service d'une domination. Vous l'évoquez très bien dans votre ouvrage, cet argumentaire. Or, comme vous venez de nous le montrer, les religions ont quelque chose à nous dire sur la liberté. Mais alors, quel sens, vous, Yann Boissière, vous donnez à cette liberté-là?
La liberté, oui, alors c'est un vaste thème. La liberté, c'est d'abord de mesurer. Je pense la liberté n'est jamais plus forte. J'essaie de donner le sens que j'y attribue, parce qu'il y a de nombreux enseignements merveilleux sur la liberté dans les traditions. Je pense qu'elle c'est la mesure de son, c'est arriver à mesurer la mesure de son espace, c'est-à-dire comprendre certaines limites, justement comprendre qu'il y a des limites que je pourrais possiblement franchir, mais qui sont pas nécessairement intéressantes à franchir. Et donc de connaître la liberté, de connaître les dimensions de son espace, c'est ça qui donne un espace habitable par moi-même. Un désert infini qui a priori d'un point de vue purement logique est l'espace maximal de la liberté, n'a aucun intérêt pour l'homme. Enfin, je veux dire, c'est un espace où il se perd constamment. Mais justement, d'arriver à comprendre qu'il y a certaines limites éthiques, philosophiques, dessine un espace que je peux habiter. Je peux au passage repousser peut-être certaines limites, mais en tout cas ça définit un espace habitable. Et la liberté, c'est ça, c'est une liberté de bouger, mais dans un espace que j'accepte.
Il y a de nombreux clichés anti-religieux. Yann Boissière, vous le rappelez dans votre ouvrage « Courage, croyons ». Des clichés du côté d'une pensée, comment l'appeler, laïciste ou intransigeante dans ses positions. Précisons que vous êtes Yann Boissière, rabbin, fondateur de l'association Les Voix de la Paix. Donc vous êtes un fervent défenseur du dialogue interreligieux qui est indissociable d'une reconnaissance des valeurs communes, je dirais, de la République, de la laïcité, mais aussi de la fraternité entre les différentes religions. Comment y voir clair ? Alors, vous dites quelque chose que je trouve absolument fondamental, c'est que défendre la laïcité, finalement, c'est pas si compliqué. Alors, c'est vrai qu'on peut défendre la laïcité et ne pas être un anti-religieux, et on peut être anti-religieux et n'avoir rien compris à la laïcité aussi, finalement.
Oui, oui, bien sûr. Ce que je pense, moi, de la laïcité, je le dis, la laïcité, pour moi, est plate. Et c'est son génie. La laïcité à la française, en tout cas, est plate et c'est son génie. Je dis qu'elle est simple parce qu'elle est définie par des textes. Alors, il y a une culture laïque, mais je suis toujours surpris et un peu, enfin, non pas gêné, mais simplement surpris de ce que certaines personnes s'appliquent à penser la laïcité compliquée ou ambiguë, etc. Et en général, parce que pour ce que j'ai observé, quand quelqu'un cherche à parler de laïcité en termes compliqués ou ambiguës, c'est qu'en général, ça cache toujours un agenda politique. Alors, c'est le droit de chacun d'être un acteur politique et de défendre une certaine, notamment toutes ces versions de la laïcité qu'on appelle adjectivée, c'est-à-dire la laïcité avec un allié, la laïcité ouverte, la laïcité fermée, la laïcité ceci ou cela, en général, cache des agendas politiques. Moi, j'aime en revenir à la définition statutaire et légale de la laïcité. Pour moi, ce sont deux principes et deux modes opératoires. Et quand on a ça en tête, c'est vrai que ça cadre pas mal de choses. Les deux principes, c'est la liberté de conscience, qui est affirmée d'ailleurs par la loi de 1905, et la non-discrimination de l'État en fonction des citoyens. Il y a eu des moments dans l'histoire où effectivement l'État privilégiait la foi telle ou telle foi ou le citoyen de telle ou telle foi. Bon, l'un des principes de la laïcité moderne, c'est que l'État ne discrimine aucun citoyen en fonction de sa foi ou de sa non-foi. Donc liberté de conscience plus égalité des citoyens, quelle que soit leur foi. Et puis il y a deux modes opératoires qui ont été mis en branle par le système français. Il y a d'autres pays laïcs qui ne procèdent pas comme ça. C'est la séparation des églises et de l'État, ce qu'affirme la loi de 1905, qui est une technique opératoire permettant à l'État justement de se désengager des affaires religieuses et d'ériger cette notion d'égalité. Et puis la neutralité de l'État dans les services publics, etc. Toutes les déclinaisons. Donc deux principes et deux modes opératoires. Et la laïcité, c'est ça et rien que ça. Alors je dis pas que n'existe pas quelques zones grises. Effectivement, il y a des situations nouvelles qui naissent. Mais je pense qu'avec cette notion, on a une notion très claire. On a un système d'ailleurs assez génial, je trouve, qui permet précisément à tous les citoyens, encore une fois, qu'ils croient, enfin celui qui croit au ciel ou celui qui n'y croit pas, comme disait Aragon, puissent vivre ensemble. C'est ce système qui assure et la liberté religieuse et le fait de pouvoir vivre ensemble sans se taper dessus, quoi. Je pense que c'est un système absolument génial et tout aussi valable, parce que l'un des débats actuels, c'est oui, mais alors quand la loi 1905 a été créée, l'islam n'était pas présent en France. Au passage, il l'était, mais de manière effectivement extrêmement minoritaire. Mais maintenant que l'islam il faudrait changer. Je pense que d'abord, c'est se méprendre sur le génie juridique d'une loi. Une loi juridique, elle a un impact au-delà de sa situation d'énonciation, sinon il faudrait changer la loi tous les jours. Et je pense qu'avec ce profil-là, encore une fois, avec liberté de conscience et égalité citoyenne, on a de quoi résister et vivre ensemble encore parfaitement aujourd'hui.
Oui, je vous cite, lorsque le terrorisme islamiste frappe sur notre territoire, ce n'est pas la laïcité qui l'attaque, mais la France, qu'on a pu le voir dans les attentats 2015.
Oui, alors c'est la laïcité est invoquée tellement souvent qu'on la met dans des situations où elle n'a rien à voir. C'est-à-dire que ceux qui sont contre la critiquent violemment et ceux qui sont pour la mettent à toutes les sauces. Et c'est un très très mauvais service que de la mettre à toutes les sauces, parce que du coup on essaye de l'engager pour résoudre certains problèmes où elle n'y peut rien. De fait, elle échoue et du coup ça discrédite en fait la notion de laïcité. Quand il y a de l'extrémisme religieux, en particulier islamiste, des attentats, c'est pas la laïcité qui est la réponse. Ici, la réponse, c'est nous. C'est nous en tant que citoyens français défendant une certaine manière de vivre française, la civilisation française au sens le plus large. Donc la laïcité n'y est pour rien. En tout cas, elle ne pourrait rien faire face à certains problèmes. Donc il faut toujours serrer les choses.
Alors, est-ce que cela ne révélerait pas une certaine ignorance, finalement, aussi de ce qu'est la religion? Je pense qu'on réduit le religieux à ses manifestations excessives, violentes, à ses dysfonctionnements, mais dans un monde qui, en stigmatisant les religions qu'il ignore finalement, montre lui-même de nombreux signes d'essoufflement, comme vous le dites, et qui n'opère pas peut-être cette réflexion critique sur ce qu'il est en tant que, par exemple, ce que la République peut résoudre ou ce qu'elle ne peut pas résoudre.
Bien sûr, vous avez raison de souligner que, bon, alors ça a été le grand narratif de la modernité, écrasons l'infâme, comme disait Voltaire, l'infâme, c'était l'infâme religieux, donc séparons-nous de la religion. Donc certaines personnes vivent encore dans ce narratif, ça c'est un premier aspect possible. Deuxième aspect, c'est que sans être aussi extrémiste et anti-religieux, beaucoup de gens, de toute façon, n'y comprennent rien ou n'ont pas de connaissances religieuses. Et ça, c'est effectivement très dommageable, parce que je ne sais pas comment comprendre la grande peinture européenne si on n'a pas de culture religieuse. Et puis, c'est comme la philosophie, enfin, je veux dire, ou la grande musique. S'en priver, c'est se priver d'une dimension essentielle de la vie, quand bien même on n'est pas nécessairement engagé en tant que croyant. Donc, la culture religieuse fait défaut. Et je dirais qu'effectivement, dans la situation actuelle où effectivement il y a aussi une pression de l'extrémisme religieux, ça nous prive des moyens d'y répondre adéquatement. Parce que comme les gens n'y entendent plus rien, on ne savent plus comment les religions fonctionnent, ils ne savent plus non plus comment éventuellement elles dysfonctionnent et comment y répondre. Donc l'inculture religieuse est réellement prohibitif aujourd'hui et très problématique.
Alors si la religion est une matrice de pensée, si elle est aussi un trésor de sagesse avec toutes ses transmissions, elle a ou elle devrait avoir sa place dans un débat avec, on va dire, l'acceptation d'une pluralité finalement. Ce qui fait un monde commun, c'est ça peut-être qui est à l'horizon de votre réflexion.
Tout à fait, c'est la résultante de toutes ces idées qu'on vient d'évoquer ensemble. C'est effectivement ce pourquoi je plaide aussi, rétablir le dialogue. Ce dialogue a existé, hein. Encore une fois, si on reprend les deux grandes bases, Athènes et Jérusalem, ce dialogue de la foi et de la raison dans la pensée médiévale, etc., a nourri la pensée en Occident, en tout cas. Elle a été brusquement interrompue à la modernité, mais on a besoin de restaurer ce dialogue aujourd'hui. Et puis j'en parle aussi comme deux grandes attitudes humaines. La philosophie a été fille de l'étonnement. Taumatzein en grec, s'étonner, c'était la philosophie de Platon. On s'étonne que les choses soient ce qu'elles sont. La religion met en avant un autre phénomène tout aussi essentiel à l'homme, le fait de reconnaître les choses, s'émerveiller, être capable de reconnaître que des choses nous sont données aussi. Et on a besoin des deux.
Merci infiniment, Yann Boissière, pour ce très beau moment d'entretien. Je rappelle à nos auditeurs le titre de votre ouvrage, Courage, croyons, pour en finir avec les clichés anti-religieux.
Merci.
Merci à Pierre Salmonos à la technique.